Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère sur le 88.4. Nous sommes en direct de 19h à 20h dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions écologiques, sociales et culturelles de Marseille et sa région. Je suis Marin, accompagné ce soir de Chloé.
Bonsoir.
Avec Camille et Sidi qui sont en régie pour cette émission et c'est important de le signaler, sans eux cela ne serait pas possible. Ce soir, nous recevons Cécile et Eric d'Opéra Mundi. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Opéra Mundi, pour reprendre un peu la présentation que vous donnez de vous-même, propose l'accès à toutes et tous à la pensée contemporaine à travers des saisons thématiques de conférences. Et ce sont des rencontres avec des grands penseurs et penseuses de notre temps qui explorent les grandes questions contemporaines, écologiques en particulier. C'est l'esprit critique, la construction d'une réflexion partagée et l'expression de tous qui gouvernent l'esprit de ces programmations que vous proposez, auxquelles sont associées différentes formes de débats publics. Donc ça, c'est Opéra Mundi tel que vous le présentez, mais je pense que dans vos mots, dans vos présentations, vous l'expliquerez encore mieux. Mais avant de vraiment présenter ce qu'est Opéra Mundi, ce qu'on aime bien faire, c'est de proposer aux auditrices et aux auditeurs la possibilité de se plonger dans des parcours, les vôtres en l'occurrence, pour savoir un petit peu qui vous êtes et ce qui vous a amené à poursuivre les engagements qui sont les vôtres. Qui veut commencer ?
Je vais commencer. Donc, on s'est rencontrés avec Eric en 2014, on se connaissait un tout petit peu et on a décidé de créer Opéra Mundi avec nos parcours, justement, à la suite de nos parcours. En l'occurrence, le mien était d'avoir travaillé pendant 13 ans pour une association qui organisait des cycles de conférences thématiques aussi, des saisons de conférences à Marseille, qui s'appelait Échange et diffusion des savoirs. Et j'ai été, à travers cette expérience, la notion d'utilité publique, de mettre en réflexion en fait les grandes idées contemporaines portées par des penseurs qui ont des choses à nous dire et à nous raconter, de donner des outils critiques en fait aux citoyens venus écouter dans des salles ouvertes à tous, qui permettent aussi la gratuité et l'accès à cette pensée contemporaine qui nous permet d'être au monde et d'agir en citoyen éclairé. Avec des outils qu'on peut remettre en cause. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du clé en main, mais c'est plutôt des clés, de multiples questionnements, de multiples clés en main. Donc, ça m'est apparu ce projet d'Opéra Mundi avec Eric Giraud comme essentiel en fait, de poursuivre en fait ce travail qui avait été déjà engagé d'une certaine façon par Échange et diffusion des savoirs à Marseille et que à Marseille, donc, il manquait. Cet esprit de saison de rencontres qui traverse en fait, qui se déploie sur un temps allant de l'automne à l'été pour une réflexion lente et pluridisciplinaire sur ces questions et ces enjeux contemporains qui nous traversent tous.
Merci Cécile, on aura l'occasion de présenter plus en détail ces différentes saisons et notamment celles en cours. Prendre soin, mais ça c'est juste après. Eric, à ton tour de te présenter.
Alors, pour ce qui me concerne, moi je venais un peu des études de sciences politiques et de littérature. J'avais voyagé, j'avais vécu aux États-Unis, en Californie et en Afrique australe, en Zambie. Et après, j'étais revenu à Marseille. Et à Marseille, je cherchais un travail et je suis tombé sur le centre de poésie, donc j'étais à fond j'ai été pendant 25 ans dans le milieu de la poésie contemporaine, donc j'ai publié des livres de poésie contemporaine, des traductions, des revues, etc., en lien avec l'art contemporain, en lien avec la littérature et le langage relativement formaliste. Et un jour je me suis réveillé, j'ai vu ce que les structures culturelles proposaient et ce que l'art proposait, par rapport à l'époque qui était en train de changer, le monde était en train de changer. C'est un truc que je reniflais dans les années 2000. À partir de 2000, j'ai senti qu'un truc était en train de changer. Et petit à petit, j'étais de plus en plus critique par rapport à ce que proposait l'art et la littérature, et la poésie en particulier, quand le poème ou l'art était l'objet de l'œuvre, quand la poésie était l'objet du poème, par exemple. Et donc, je voulais connecter, en fait, ces arts à toutes les autres disciplines. Et à un moment, j'ai été mis au placard par ces structures culturelles qui sont relativement sauvages, on va dire, dans le traitement des humains. Et je me suis dit, donc quand j'étais dans le placard, comme disait Sartre, à un certain moment, quand on se retrouve enfermé, on peut être libre dans sa tête. Et donc j'ai réfléchi à plein de solutions, à plein de connexions par rapport à une figure où on pouvait connecter la littérature ou les arts avec plein de disciplines. Et un jour, je suis tombé sur Cécile, dont je connaissais le patron, qui était relativement atypique. Et donc, Cécile venait d'être licenciée parce que l'association dans laquelle elle travaillait avait fermé parce que la personne qui la dirigeait, qui était quelqu'un de qualité, avait dit « je prends ma retraite, je m'en vais ». Et donc, on ferme tout. Et je lui ai dit à Cécile, moi, j'ai un projet. Je te propose un projet de connexion interdisciplinaire, pluridisciplinaire. Et donc, elle m'a dit, en partant des questions écologiques, et on va revisiter le monde. Parce que le monde, avec Cécile, on a discuté pendant une année. Tous les matins, on se voyait. Moi, je travaillais. Cécile était au chômage. On travaillait de 8h à midi. On brainstormait à fond. Et on a revu le projet que je lui avais proposé pour faire un nouveau projet, en fait, celui d'Opéra Mundi, et dont la devise était « Le monde change, parlons-en ».
Une vraie association.
Et pourquoi Opéra Mundi, du coup, quelle est l'histoire ?
Alors, Opéra Mundi, c'est la traduction, on pourrait la donner tout de suite, c'est les œuvres du monde, où on pourrait aussi revoir cette expression « un monde à l'œuvre », en fait, est venue en fait de cette ambition qu'on avait un peu folle de faire ces conférences à l'Opéra de Marseille. En se disant, parce que c'est aussi un fond de l'association, c'est de faire un pas de côté, notamment en proposant ces conférences dans des lieux qui n'ont pas à voir en fait avec la pensée, donc de déplacer la pensée dans des endroits qui ne l'attendent pas forcément. Bien que la pensée et l'émotion aient à voir ensemble et que la musique, etc., se rejoignent dans ce caractère de créer de l'émotion. Et ça n'a pas pu se faire. Moi, je suis en connexion par des liens familiaux avec Harmonia Mundi. Il y avait une grande exposition qui avait été créée à Lisbonne, qui s'appelait Mapa Mundi, autour de la cartographie. Donc c'est venu comme ça, en fait, comme une... ça nous est tombé dessus, Opéra Mundi. On s'est dit, quelle belle formulation, et un peu mystérieuse pour beaucoup de gens, mais en même temps, ça sonne bien.
Voilà. Ça attise la curiosité, ce qui est bien aussi.
Exactement.
Ça donne envie de venir, de découvrir.
Exactement. Oui.
L'histoire, c'est qu'on a gardé le terme sans être à l'opéra.
Surtout que ça éveille aussi cette idée d'un grand ballet du monde, le fait que Mundi, c'est la science du mouvement, et sur lequel vous convoquez une très large palette de réflexions, de sentiments, de sensibilité, et qui permettent de prendre possession des différentes facettes de notre être. Donc effectivement, en termes de et puis ça sonne un peu latin, si on peut dire ça comme ça, c'est sûr que ça éveille des imaginaires assez puissants.
Et aussi opéra, opérare, donc c'est le faire, c'est-à-dire une pensée qui nous amène à avancer, à faire, à entreprendre en tout cas des changements qui s'avèrent comme on l'explore depuis plusieurs saisons, enfin depuis 2015, nécessaires face aux grands bouleversements à l'œuvre, notamment du point de vue écologique.
Parce que vous parlez de mouvement, donc vos conférences aussi, elles invitent à l'action. C'est ça aussi que vous avez envie de faire passer comme message.
En tout cas, on a un présupposé, c'est qu'une curiosité amène les gens à venir écouter ces conférences. Une curiosité, puis peut-être aussi une nécessité et un besoin qu'on ressent des publics, enfin des personnes qui viennent assister aux conférences de de débattre, débattre ensemble. Bon, on y reviendra parce qu'on a essayé de créer des dispositifs qui permettent justement une réflexion collective après les conférences. Mais on ne dit pas aux gens faites des choses, etc. Chacun s'empare en fait de ces outils comme il l'entend. Mais on essaie effectivement de toucher un public le plus large pour qu'il y ait un mélange au moment de ces débats justement, un mélange de propositions.
Et peut-être pour qu'ils s'imprennent, que ça infuse aussi. Que la...
Exactement. Eric.
C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de séparer, on a envie de mettre en relation. Et on sait que parfois, les gens séparent, disent arrêtez de parler, agissez. Moi, je pense qu'il est aussi important de penser que d'agir et que c'est relié. Et donc, nous, on est plutôt, enclin à penser. On sait faire ce qu'on peut faire et c'est mettre en relation des scientifiques avec le public. Mettre en relation le savoir scientifique, les outils que les scientifiques, divers scientifiques, le savoir, mais aussi le savoir-faire des professionnels avec le public. Et c'est une chose qui est très importante. Et après, il y a d'autres personnes qui sont très forts pour agir, pour réaliser. Mmh. Et il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. On est dans une situation qui est relativement fragile. Il faut que toutes les forces travaillent dans le sens et se mettent en relation. Alors on s'est dit quand même, parce qu'on avait parfois des étudiants ou le public qui nous disaient « Oui, mais nous, on a envie d'agir. » Alors certains ont envie d'aller ramasser le plastique sur les plages et ils ont l'impression d'agir. Et c'est vrai qu'ils agissent parce qu'ils ont besoin de faire une action pour se dire « Ok, je suis dans le monde et pas seulement de parler. » Et c'est pour ça qu'on a fait, en fait, que en plus des conférences pour les adultes et des conférences pour les enfants, où il y a une certaine action de parole entre le public, on demande au public de participer, d'agir, mais d'agir dans le sens du savoir ou de la relation, il y a aussi des ateliers, les ateliers du soin, par rapport à notre nouvelle saison sur prendre le soin qu'on a fait, où on essayait de mettre en action, de poser des questions à des gens du territoire, à des gens des quartiers, pour leur dire comment pouvez-vous prendre soin de soi, de ses proches et de son quartier. Ça me semblait un peu plus pratique, pragmatique.
C'est sûr que la question de prendre soin, j'allais vous amener doucement à cette programmation qui est la vôtre cette année, et réfléchir ensemble sur en quoi est-ce que il y a un lien avec l'action et aussi avec le fait de relier. Prendre soin, c'est pas aussi simple que couper une planche quand on dit il faut faire, ou de dire on va ramasser, comme tu dis, des déchets sur une plage. Il y a une subtilité de l'approche, il y a des interconnexions qui sont à faire en nous-mêmes, dans nos relations avec les autres êtres vivants, humains comme non-humains, et où c'est toute cette pluralité de l'action, de la conscience et de ces échanges qui sont extrêmement subtils. Et donc, est-ce que vous voulez un petit peu détailler la façon dont vous percevez ce cycle ? Comment est-ce que vous l'avez construit ? Quelles sont les conférences que vous proposez ?
En fait, nous, on a ramassé des déchets sur les plages parce qu'on a fait des ateliers avec les jeunes du Collège des Chartreux, par exemple. On leur demandait de prendre des déchets, et après avec une artiste on a fait des cabanes, des petites cabanes toutes petites en maquette avec des déchets qui étaient super esthétiques, hyper belles, et en même temps on prenait des déchets de texte avec un écrivain et on écrivait un autre texte. Donc on a fait des petites choses, c'est pour ça qu'on est vraiment pas contre, mais je veux dire donc sur le soin on s'est dit partir de la notion de vulnérabilité. On est dans une époque où il y a le dérèglement climatique qui est maintenant accepté par tous et entendu par tous. Il y a eu la pandémie du Covid qui a été un bouleversement sociétal et philosophique, psychologique énorme. Et on a en même temps les vacillements démocratiques qui sont suivis par énormément d'autocratisme, des pays de plus en plus autocratiques qui critiquent les pays démocratiques. Et donc, par rapport à cette situation de vulnérabilité, il y a une vulnérabilité sociale. Il y a de plus en plus de pauvres dans les quartiers. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas séparer le climat, les dérèglements climatiques des dérèglements premiers qui sont des dérèglements sociétaux. La société n'a pas réussi à nous rendre plus égaux, à nous rendre plus heureux, même si la santé a augmenté. Mais en fait, il y a des déséquilibres énormes. Et donc... Il y a aussi une vulnérabilité, humaine en général et qui touche tout le monde par rapport au réchauffement climatique. Tout le monde personne n'est à l'abri. Certaines personnes pourront mieux réagir, mais personne n'est à l'abri. Et donc, avant, on était dans un constat de l'humain comme tout puissant. Et maintenant, pourquoi pas partir de la fragilité de l'humain pour essayer de porter attention au monde qui nous entoure, au monde dans lequel on est, à nos proches, et à nos proches humains et à nos proches autres qu'humains. Et en prenant attention, en portant attention à nos proches, à tous nos proches en fait, et à notre environnement, on pourrait prendre en considération leur faiblesse, prendre en considération la fragilité. Et en prenant en considération cette fragilité-là, on pourrait peut-être s'occuper du soin, prendre soin. Et donc, on peut dire qu'on part de la vulnérabilité, on commence par l'attention, on passe par la considération, et ensuite on va jusqu'au soin. Et prendre soin, ça peut être très simple, ça peut être, c'est une manière de s'ouvrir aux autres que soi, de s'ouvrir à soi-même. Il faut prendre soin de soi, peut-être voir qui on est d'abord pour après avoir la capacité de prendre soin des autres. Et donc on a travaillé là-dessus à divers niveaux et à diverses échelles via nos conférences.
Voilà, donc il y a 22 rendez-vous en fait, c'est un cycle de conférences donc, qui a commencé au mois de décembre et qui propose 22 rendez-vous pour réfléchir de façon transdisciplinaire, pluridisciplinaire je dirais, avec énormément d'entrées sur cette question à la fois, comme disait Eric, de la vulnérabilité, de qu'est-ce que c'est porter attention et qu'est-ce que c'est aussi soigner et prendre soin. La première conférence de Michel Lussault a permis au FRAC, lors d'un temps fort qu'on a organisé donc le 9-10 décembre, première conférence qui était intitulée « Renoncer à la puissance pour une ville bienveillante ». Et dans cette conférence, donc, il nous a éclairé justement sur cette question qui est saisie par ce qu'on appelle la philosophie du care, pour essayer de réfléchir à comment changer peut-être de paradigme à travers cette proposition du care, changer de paradigme pour passer justement d'une façon de penser le monde. Une forme de toute-puissance, finalement, dans laquelle on est embringué depuis plusieurs siècles. Et pour justement revenir, comme disait Eric, une façon de reconsidérer les choses, non pas de façon ascendante vers la puissance, mais plutôt de repartir de la vulnérabilité, quelque chose de beaucoup plus horizontal, en fait, pour repenser la société dans son ensemble et ses mécanismes.
Et alors, quand on préparait cette émission, Cécile, tu me disais que vous aviez reçu Marc-André Sellos. Je te laisserai nous expliquer qui il est et ce qu'il fait samedi dernier, que c'était la fête. Et principalement, il a parlé de la santé des sols et des champignons. Alors, une question qui peut apparaître peut-être aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, c'est quel est le rapport qui peut exister entre ces sujets-là et le soin, la vulnérabilité, la relation avec les autres, l'attention au monde. Est-ce que vous voulez un petit peu détailler ce dont vous avez parlé et ces connexions qui se font ?
Alors je vais rappeler samedi, donc on était au conservatoire Pierre Barbizet pour une grande conférence qui a rassemblé 230 personnes, des ateliers philo adultes, il y a eu un atelier philo pour les enfants et une conférence abécédaire pour les enfants également, qui était archi pleine à la fabulerie. Et ça a été la fête parce qu'on avait un conférencier assez exceptionnel. Il est biologiste, Marc-André Sellos, et spécialiste des champignons, un des rares grands spécialistes des champignons qui vivent sous la terre. Alors la question, en fait, pourquoi est-ce que cette conférence intervient dans notre programmation, c'est que les sols sont bien souvent, comme on le sait, maltraités par les diverses pollutions, par la pollution, voilà, par les activités humaines. Et ces sols, c'est juste essentiel. Je crois que un des derniers rapports du GIEC il y a 2 ans indiquait que les sols étaient une des grandes priorités des années à venir et qu'il fallait en prendre soin. Et en fait, ce qui se passe avec les champignons, c'est que il y a une véritable interaction en fait entre les champignons et les végétaux. Et quand les champignons disparaissent, les végétaux sont en mauvaise santé. Et cette interaction, en fait, elle a été activée par les végétaux justement pour attirer. Il y a un véritable échange en fait de nourriture entre les deux, et quand les champignons ne sont plus là, tous les micro-organismes souterrains ne sont plus là, les plantes ne poussent plus. Et ce qui était merveilleux, c'était quand même cette capacité de transmettre de Marc-André Sellos, qui est un homme à part, en fait, dans cette capacité à la fois mettre de la joie, à transmettre une pensée assez costaud, et les mots les plus simples et les plus justes, en fait, pour passionner tout son auditoire. Voilà.
En fait, il y a un échange entre les racines et les champignons. Les racines nourrissent, protègent. Les champignons font fructifier les plantes, en fait. Donc, en fait, les champignons apportent des choses aux racines qui font vivre la plante. Et les racines apportent des nutriments, du sucre la nourriture aux champignons. En fait, c'est une espèce de business entre les deux qui leur permettent de vivre. Et il y a une utilité, c'est ce qu'on appelle une symbiose. Mmh. Tout ce réseau de champignons qui s'appelle des mycorhizes peuvent faire 1 kilomètre de long, c'est-à-dire on a un champignon qui apparaît là comme ça au-dessus à la surface du sol, mais il peut y avoir un réseau énorme en fait, et qui touche diverses racines, qui se nourrit de divers arbres, qui mange des champignons parfois, qui attaque des champignons. C'est une vie souterraine qui est incroyable. Et quand on met du glyphosate, quand on met des intrants chimiques, on dégrade ce réseau de vie. Et en dégradant ce réseau de vie, eh bien, on dégrade la symbiose et cette espèce de collaboration qu'il y a entre. Et donc ça impacte les arbres, ça impacte les plantes, et c'est pas du tout bon pour tout le système de du vivant, du sol, qu'il soit aérien ou souterrain.
Une symbiose qui nous rappelle à quel point on est tous interconnectés. Absolument. La nature et puis nous. Ce que parfois on a tendance, je crois, à oublier, que vous nous rappelez à travers ces conférences.
Et la semaine dernière, on parlait de permaculture, on va dire agricole, mais aussi de permaculture de vie dans nos interactions. C'est là, on continue un peu cette réflexion avec vous. Et c'est passionnant ce dont vous parlez. On pourrait aborder une multitude de sujets. Ce qu'on a choisi pour cette émission, c'est de pouvoir avoir une approche un peu interactive et qu'on puisse faire remuer nos méninges. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a un petit peu présenté les différentes conférences que propose Opéra Mundi, et on donnera quelques dates clés à la toute fin de cette émission. On va faire une petite pause musicale, et à la suite de cette pause, on va pouvoir réfléchir ensemble entre nous, et également, si jamais vous nous écoutez et que vous avez envie de participer à cette émission, ne sait-on jamais, vous pourrez appeler l'antenne au 04 91 08 28 10. C'est un numéro de téléphone qui se trouve également en ligne sur le site de Radio Galère, sur Internet si vous cherchez. On va lancer la musique, c'est Naturalesa de Danit, et en revenant, c'est vous qui prendrez les manettes de l'émission et qui nous ferez réfléchir ensemble. A tout de suite. Nous sommes de retour sur Radio Galère sur le 88.4 dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions écologiques, sociales et culturelles de Marseille et sa région. Nous sommes toujours avec Cécile et Eric d'Opéra Mundi en direct de 19h à 20h. Je ne l'avais pas précisé, mais vous pourrez retrouver cette émission en replay demain entre 9h et 10h sur ces ondes et ensuite en podcast sur Radio Galère lorsque vous cherchez cela sur Internet. Et pour reprendre la conversation, ce que l'on a décidé, c'est de pouvoir avoir une approche qui soit un peu plus interactive et expérimentale de ce qu'est prendre soin. Si jamais vous souhaitez participer à cette conversation, je rappelle le numéro, le 04 91 08 28 10. Il y a une personne qui est intervenue en un an dans cette émission, il ne s'étonne jamais. Ce que l'on va faire, c'est que d'abord, je vous invite, Cécile et Eric, à présenter un peu les différents types d'ateliers que vous menez, puis les publics auxquels vous vous adressez, et puis ensuite, on rentrera dans la danse.
J'étais en train d'écrire, j'ai pas bien compris.
Alors ma question, c'est de savoir... En fait, quels sont les formats que vous proposez, les conférences, les ateliers, les D'accord. types de réflexion et puis les publics?
Alors, on essaie déjà de s'adresser à tous les publics, c'est-à-dire qu'on propose des conférences et des ateliers philo à la fois classiques, hein, des conférences grand format à partir des lycéens, enfin, on dira adultes, grand public, mais également, c'était dans notre projet de départ, de convoquer en fait ces grands penseurs et de leur demander de faire des conférences pour les enfants, des conférences abécédaires. Donc c'est un dispositif qu'on a mis en place avec un tirage au sort de lettres qui permet d'explorer six grandes notions choisies avec le conférencier et qui sont tirées de façon aléatoire par les enfants. C'est extrêmement interactif, ça marche très très bien, les enfants sont à fond. Donc on est assez contents parce qu'ils ont pu rencontrer vraiment de très grands formats de la pensée et peut-être créer des vocations justement d'adultes agissant dans ces domaines. Par ailleurs, on organise après les conférences des apéro mundi pour justement Opéra Mundi, Apéro Mundi. On offre un verre et tout le monde se retrouve à l'extérieur de la salle de conférence. On ne prend pas les questions dans la salle de conférence. De sorte que tout le monde se retrouve de façon un peu horizontale avec le conférencier au milieu pour pouvoir lancer les débats et les questionnements. Et surtout, on a mis en place cette année autour de se prendre soin des ateliers du soin. Des ateliers du soin dont parlait Eric tout à l'heure. Qui sont des ateliers d'intelligence collective et qui nous questionnent sur qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi, des autres et de son quartier. Ces premiers ateliers qui se sont tenus en novembre et décembre au Baumettes, mais également dans le quartier centre-ville au Théâtre de l'Œuvre et aussi à la Joliette, ont convoqué en fait, au Baumettes c'était des détenus pour s'interroger sur cette notion, mais également des habitants en fait concernés justement par la vie du quartier au centre-ville, à la Joliette qui reste le centre-ville, mais vraiment des gens qui agissent et vivent dans ces quartiers.
Oui, après Opéra Mundi, Apéro Mundi, on peut faire les Radio Mundi. Et donc de se mettre à foisonner ensemble sur une question que vous allez nous proposer. Est-ce que vous voulez débuter pour qu'on se mette dans le bain?
Donc, comment prendre soin? Comment prendre soin? Il peut y avoir trois niveaux. On part de soi-même, on ne peut pas s'absenter complètement de soi-même. Et si on veut prendre soin des autres, il faut quand même avoir pris soin de soi, parce qu'on sait que plus on a de problèmes, ou plus on est, noyé en soi, dans les souffrances, ou dans les difficultés, ou les tiraillements qu'il peut y avoir dans le soi, il est plus difficile d'écouter les autres. parce qu'on ne fait que s'écouter soi-même. Et donc, prendre soin de soi, ça consiste à peut-être faire une introspection, ou peut-être voir ce que l'on apprécie, ce que l'on n'apprécie pas, ce que l'on pourrait faire et que l'on ne fait pas, ce qu'il faudrait, comment bien vivre dans des situations qui sont de plus en plus complexes. On a fait une saison avec Opéra Mundi sur le temps, en fait deux saisons, parce que c'était pendant le Covid, prenons le temps, ça s'appelait. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je dirais personnellement, pour prendre soin de moi-même, moi, je pense plutôt aux autres, mais il faut aussi un peu penser à soi-même. Et si on ne pense qu'aux autres et qu'on n'accorde pas du temps pour soi, par exemple, on a de moins en moins le temps de lire, on a de moins en moins le temps de ne rien faire, parce qu'on se retrouve dans une espèce de société numérique qui n'est pas si mauvaise que ça, mais qui nous met en relation avec énormément de choses et qui nous rend multitâches. Et on sait très bien que les situations de travail sont de plus en plus précaires, surtout quand on travaille dans le monde associatif, mais aussi dans les entreprises, ou quand on ne travaille pas non plus. Et donc, on va avoir de moins en moins de temps. Quelqu'un qui ne travaille pas, peut-être, n'a pas énormément de temps non plus. Et donc, comment est-ce qu'on peut se faire du bien à soi-même pour se centrer ? Moi, ça serait ça, ma première question. Et donc, c'est peut-être les questions que je peux vous poser à Chloé. Et à Marin, comment pourriez-vous prendre mieux soin de vous-même, à moins que peut-être vous prenez bien soin de vous et que tout va bien avec votre être, ce que vous êtes.
Ben, je pense que c'est un apprentissage de prendre soin de soi, de prendre le temps effectivement de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, parce que peut-être que chacun a sa définition de prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de nous. Moi, j'y travaille depuis quelques années parce que je sens que c'est important pour moi. Et j'ai remarqué que prendre soin de moi, c'est à travers un bien-être physique. C'est aussi dans les relations qu'on peut entretenir avec sa famille, avec ses amis, de repenser les relations qui nous entourent. Et puis aussi au travail, prendre bien soin de soi lié à notre travail. Et je trouve que c'est en lien aussi avec qu'est-ce qui a du sens pour nous. Ça, je trouve que c'est aussi prendre soin de soi, de mettre du sens dans tout ce qu'on entreprend, dans les amitiés, dans l'amour, dans le travail, dans les associations, dans des collectifs. Et voilà, pour moi, prendre soin de soi, ça peut être tout ce mélange et de trouver sa place, finalement, dans ce monde. C'est ça, je crois, pour moi, prendre soin de soi, c'est ça. Prendre sa place dans le monde, avec sens.
Alors moi, je m'inscris... pas mal dans les propos de Chloé. Et alors, pour partager peut-être une expérience, il y a 4 ans et demi, à une époque où j'étais en pleine crise existentielle par rapport au bouleversement du monde et au risque immédiat et pressant des catastrophes climatiques et toutes les incidences écologiques, ça m'a invité aussi à me rendre compte de mes propres catastrophe interne, et donc de travailler avec un psy à ce moment-là, d'entreprendre une thérapie que j'ai débutée en 2018 et que je poursuis aujourd'hui. Alors pas que avec un seul thérapeute, parce que j'aime bien multiplier les approches, et donc d'avoir un psy, mais aussi de faire des travaux de spiritualité, de méditation, d'ateliers de pleine conscience, de lecture, de décentrage par différents engagements associatifs. Et plus le temps passe, et plus je sens ce foisonnement complexe, en fait, avec des petits ajustements qui peuvent se faire, alors Chloé le disait très bien, à la fois dans l'approche physique, dans l'approche relationnelle, dans l'approche du travail, dans l'approche mentale, dans l'approche spirituelle, où plus on est dans ce travail de conscience, et plus on a conscience de sa propre musique, je trouve, de sa propre partition, et où on entend aussi celle des autres et celle du monde, et où on essaie de naviguer pour prendre sa place là-dedans et voir comment créer une espèce d'harmonie avec celles et ceux qui nous entourent. C'est peut-être un peu abstrait ce que je raconte, mais je le vis vraiment comme ça.
Oui, c'est très personnel, hein, de toute manière.
Et
ouais.
Donc ces petits ajustements qui font qu'on se dit « là, c'est ma place ». Et en fait, concrètement, ce que ça implique, c'est ce dont on parlait la semaine dernière, c'est la mise en place d'une forme de permaculture de vie avec différents engagements qui se complètent les uns les autres. Donc typiquement, prendre le temps de lire et puis après, par la lecture, remettre ça ici à la radio, ou de créer un site qui s'appelait l'Arbre des Imaginaires, puis après d'essayer de se dire, ah bah tiens, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre ça en place pour de vrai, et donc de partir en colocation solidaire, puis en service civique, puis se dire comment est-ce qu'on essaie de mettre ça en place au niveau d'une ville, puis de vous inviter à la radio, et puis d'essayer de créer une cité des transitions à laquelle vous avez participé, et de mettre en place cette grande danse. Donc ça peut être une forme de projet un peu utopique, mais j'ai l'impression que quand on est dans ce mouvement-là aussi, après il y a ce mouvement qui s'entraîne autour de nous, ou en tout cas on finit par retrouver des gens aussi qui sont dans cette aspiration. Je pense que par exemple Chloé, ça fait un an qu'on s'est rencontrés à peu près à ce moment-là, et il y a eu aussi des interactions qui se sont créées parce qu'on était en résonance l'un avec l'autre. Voilà.
Ouais, c'est une attention, je trouve, à soi, et donc du coup une attention au monde.
Mmh, tout à fait. Moi, je souscris aussi à... J'ai relevé qu'est-ce qui a du sens pour nous, en fait. C'est-à-dire, prendre soin de soi, c'est s'interroger aussi sur soi-même et sur sa relation aux autres. Enfin, je crois qu'on est un petit peu tous d'accord. Et moi, j'aimerais rajouter ce mot, se nourrir, en fait. Pour moi, prendre soin de soi, c'est se nourrir pour pouvoir... nourrir une attention aux autres, pour pouvoir nourrir des questionnements, pour pouvoir nourrir aussi bien ces questionnements, mais aussi passer sur du soin beaucoup plus concret, s'alimenter au sens propre et figuré et translater ces gestes-là vers les autres, en fait, et améliorer, en fait, la qualité relationnelle qu'on peut avoir avec autrui. Voilà.
Il y a une question qui me vient avec ce que tu dis, c'est lorsqu'on dit qu'on fait quelque chose par intérêt ou désintérêt. Ça a souvent été quelque chose qui m'a beaucoup questionné quand on me disait « bah ça, tu le fais parce que t'es intéressé ». Mais si jamais je suis pas intéressé à chercher... ce qui fait sens pour moi, ma place, et ce qui me nourrit, mon engagement serait faux, j'essaierais de compenser quelque chose, ou alors ça serait vain, inutile, etc. Est-ce que tu vois un peu la jonction de se dire prendre soin, je me nourris pour ensuite avoir une attention aux autres? Bah, mon intérêt, c'est de me nourrir, mais de me nourrir pour te rendre, pour que nous rendions, et qu'on crée cette symbiose qui fasse que ça soit vertueux pour toutes et tous.
Bah oui, moi je suis assez d'accord avec cette idée. Moi je trouve que j'ai un peu du mal à parler, en fait.
C'est dur la radio, hein.
Ah
c'est dur
ça.
Franchement,
c'est une certaine introspection
de
soir,
se livrer
hein
voilà, oui. À la radio, c'est pas évident.
Pour tout le monde, hein. Je pense qu'on peut se rassurer. En tout cas, je partage également une certaine difficulté à raconter des choses intimes à la radio.
Bah de verbaliser.
En tout cas,
ça,
oui. Mais je trouve que bon, pour reprendre le terme d'intérêt-désintérêt, on pourrait peut-être s'interroger sur ce que veut dire la gratuité, en fait. La question du don et du... Quand on prend soin dans un absolu... On aurait tendance à penser qu'on est dans un don sans contre-don ou avec contre-don. La question de la gratuité, justement, du geste, de l'attention qu'on peut porter, c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être réfléchir. Enfin, en tout cas, je pose ça comme ça. Voilà, c'est un peu...
Il y a un livre un peu cynique qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années qui s'appelle « Le bug humain ». De Sébastien Boller, il me semble, et qui parlait du fait que notre stratum dans notre cerveau développait de la dopamine qui nous avait permis de nous maintenir vivants si jamais on répondait à 5 fonctions prioritaires qui étaient manger, se reproduire, bien connaître son écosystème, faire le moins possible d'efforts et être relativement meilleur que son voisin. Et ensuite, donc, il expliquait que pendant des années, ça nous avait permis de survivre et que maintenant que nous étions dans une phase industrielle, c'était ce même stratum qui produisait de la dopamine qui nous invitait à nous détruire. Et donc, il invitait à se questionner sur les pistes de sortie de, cette espèce de cheminement macabre. Et il parlait du cerveau de Sœur Teresa, qui par le don, en fait, avait constitué le fait que dans sa propre représentation de ce qu'est la réussite et être mieux que son voisin, j'utilise des guillemets, c'était le don, le partage, le fait de se mettre au service des autres, et qu'elle avait un stratum très, très développé à ce niveau-là. Alors, pourquoi c'est un peu cynique ? Parce qu'on a l'impression que tout est essentialisé, qu'on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Mais est-ce que, toi qui parlais de la question du don, il n'y a pas aussi ce plaisir de donner, cette joie de savoir qu'on fait plaisir à l'autre ? Et également, si on participe à la transformation des imaginaires dans un univers dont on sait qu'il va être restreint, là aussi le fait de se sentir un peu précurseur d'une façon de vivre qui est nécessaire, sans quoi on va tous à un moment se taper dessus.
Mmh. Ben écoute, oui. En fait, je voudrais qu'Éric prenne la parole.
En fait, un don intéressé ou un don désintéressé, l'intérêt n'est pas nécessairement mauvais, l'opportunisme n'est pas nécessairement mauvais. On sait très bien qu'en Europe, il faut vraiment être vertueux et ne surtout pas être opportuniste et ne pas être intéressé. Mais je pense qu'à certains niveaux, ça peut aussi être bien, ça peut permettre d'agir. Mais il y a aussi, j'avais lu dans une bande dessinée dont j'oublie toujours le nom, qui est faite par une autrice suédoise, où il y a beaucoup de textes d'intellectuels, de sociologues, et dans le titre, il y a « Rose et rouge ». Que les trentenaires, dans la génération des trentenaires de maintenant, l'autre n'était que, en fait, le jalon qui leur permettait de revenir à eux-mêmes. Parce que ils avaient un soi qui était toujours jamais assouvi ou problématique, on va dire, peut-être par rapport à l'époque dans laquelle ils se trouvaient. Et en fait, quand on arrive quand même à pas se satisfaire, mais à ne plus être assoiffé de soi-même, et qu'on va vers l'autre parce que l'autre n'est pas notre semblable, parce qu'on peut apprendre quelque chose de l'autre parce qu'il n'est pas comme nous, et on peut s'oublier pendant un certain temps dans l'autre, dans le goût de l'autre, et ça fait du bien parce qu'on va s'absenter et ensuite être dans la relation. Toujours apprendre parce que on apprend d'un autre qu'on ne connaît pas. Ça c'est la première chose par rapport à l'autre, et ensuite quand on dépasse l'autre, on peut se retrouver aussi tous ensemble dans un lieu, dans un habitat, dans une ville. On sait très bien que les villes sont de plus en plus quittées par les citadins parce qu'ils fantasment la nature. Mais est-ce que dans les villes, dans nos quartiers, on pourrait bien y vivre et ensemble et faire société? Et c'est le troisième stade de notre interrogation, de notre atelier, qui n'est pas d'intelligence collective là, parce qu'on n'a pas les outils, nous, ce qu'on fait intervenir souvent des facilitatrices, comme on l'appelle, d'intelligence collective, mais on peut aussi, par la discussion, essayer de trouver des pistes, ou de voir en soi ce qu'on ne savait pas, qu'on savait déjà.
Alors, prendre soin de soi en prenant du coup soin des autres. Et c'est vrai que dans notre quartier, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, je sais qu'en arrivant à Marseille il y a 2 ans, je connaissais personne et je ressentais le besoin, en tout cas, de prendre soin de moi. Et je me suis interrogée comment faire. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était en apprenant à découvrir mes voisins. Mon immeuble, en fait, je me suis rendu compte qu'à Paris, parce que je venais de Paris, effectivement, je ne connaissais personne. J'habitais depuis 5 ans dans un immeuble, je ne connaissais personne et je n'avais pas envie de reproduire ça à Marseille. Donc, j'ai organisé un apéro des voisins. Je suis allée toquer à chaque porte de mes voisins. Et en fait, je me suis rendu compte la richesse de ces échanges, parce que déjà, c'est intergénérationnel. Il y avait une mamie, il y avait un couple de trentenaires, il y avait plein de personnes qui venaient d'univers différents. Ils étaient un peu surpris au début, je crois qu'ils n'étaient pas prêts pour cette rencontre. Et en fait, ça a été une très belle soirée parce que on a appris à découvrir des univers très différents, des métiers différents. Martine, la voisine du premier étage, qui est retraitée aujourd'hui, elle nous a expliquer à quel point le fait d'être marseillaise, c'est très riche, ce qu'elle peut y faire avec des amis, en randonnée. Et on a décidé, j'ai décidé de poursuivre ça une fois tous les 2 mois, de réunir les voisins. Et puis de se dire aussi qu'on est là les uns pour les autres. Voilà, après le Covid, pendant le Covid, on s'est rendu compte à quel point on avait besoin des autres, pour un service ou même pour juste savoir si tout va bien. On s'est échangé aussi ce qu'on pouvait apporter aux autres en termes de service. Et puis, tout le monde a trouvé ça assez intéressant. Et je trouve que prendre soin de soi, c'est aussi ça, prendre soin des autres. Et de son voisinage, en fait, très, très proche de soi, on peut faire beaucoup. Voilà, donc dans le quartier, les apéros de voisins, c'est assez super. Et il n'y a pas besoin d'attendre forcément les beaux jours. On peut, avec un peu de créativité, faire ça tout au long de l'année. Et c'est très riche. Voilà.
Merci Chloé pour ce partage. Alors c'est dur de rebondir derrière. J'aurais peut-être deux parties de réponse. La première, avant d'inviter au questionnement de l'engagement dans la cité, tu parlais d'une dichotomie entre le soi et l'autre. À titre personnel, je trouve que plus on avance dans la conscience et plus on se rend compte que l'autre est vraiment singulier dans ce qu'il est, et en même temps il y a quand même quelque chose qui nous relie, et que ce qui l'impacte lui à l'arrivée m'impactera moi également, et que c'est aussi le principe de un peu comme un corps vivant en fait, et que un impact quelque part, une incidence, une transformation de l'écosystème fait que tout se transforme. Si jamais je me casse la jambe, ça va avoir une incidence sur mon équilibre général. Peut-être que ma colonne vertébrale va être un peu tordue, j'en sais rien. Je dis ça, je suis pas du tout médecin. De la même façon que dans une société, si jamais on coupe à Marseille l'arrivée du canal de Marseille et donc l'approvisionnement en eau, c'est tout le reste de la société qui sera complètement impacté par ça. Et donc, c'est aussi pareil, nous, dans nos écosystèmes humains. Si jamais ce soir, Eric, il t'arrive quelque chose, ou si jamais, pas forcément un drame, mais tu as une transformation progressive et que je continue à te rencontrer régulièrement, ça va avoir une incidence sur moi par les paroles que tu vas... les échanges qu'on aura. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de dire sur la relation soit l'autre. Et après, pour ce qui concerne effectivement le fait de mettre en place ces permacultures de vie, alors c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement avec Arthur, qui n'est pas là ce soir mais qui fait partie de notre équipe. Pendant 2 ans, on a été en colocation solidaire avec une association qui s'appelle La Fève, où le principe était de donner 5 heures de son temps par semaine en échange d'avoir des loyers qui étaient modérés, et aussi de pouvoir faire émerger du temps, parce que qui dit loyer modéré dit pas obligé de courir à être absolument dans une activité productiviste qui nous demande absolument de rapporter énormément d'argent pour payer ce loyer-là, et donc de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir se mettre au travail sur des activités plus créatives ou qui nous plaisent, mais qui ont aussi à un moment une incidence sur les autres. Typiquement là, cette radio, ça, on fait ça bénévolement, et c'est rendu possible par ce genre d'engagement. Et en échange, le but était de travailler avec des enfants qui étaient au théâtre de l'œuvre pendant 1 an, pour ce qui me concerne, parce qu'ensuite j'ai fait des maraudes. Et donc voilà, en fait, de créer ces écosystèmes un peu complexes où on se relie tous les uns les autres. Et ce qui est pratique, c'est que plus on fait foisonner ces échanges-là, et plus on peut parvenir toutes et tous ensemble à répondre à un certain nombre de nos besoins, quels qu'ils soient, parce qu'il y aura toujours... la compétence, si j'ai un besoin matériel, par exemple, de, je sais pas, couper une planche pour construire un meuble, mais moi j'ai pas de scie, mais mon pote là, et en fait, grâce à ça, j'ai pas besoin d'aller au Weldom pour acheter une scie. C'est bête, mais j'ai besoin d'un moment de me détendre et de faire une activité de yoga. Peut-être que je vais demander à Chloé, parce que je sais que c'est quelque chose qui la travaille et qu'elle aime faire ça. Inversement, quelqu'un qui a envie d'avoir je vais pas dire ce qu'ils vont chercher chez moi, demandez-leur. Mais toujours est-il que c'est plus foisonnant. Voilà, peut-être qu'on va arrêter cette. Enfin, tu as un dernier mot, parce que
tu parles d'interdépendance, et en fait, c'est ce que Michel Dussault avait évoqué dans sa conférence au FRAC, c'est que avant, on prônait l'indépendance, ne jamais dépendre de quelqu'un, être un être indépendant qui pouvait faire agir que par soi-même et tout ça. Et en fait. Pour l'indépendance contre la dépendance. Et il est vrai que la dépendance est une situation qui est très difficile. Mais l'interdépendance, est-ce que ça ne serait pas ça la règle ? la règle de vie, la règle de la solution.
C'est reconnaître aussi une sorte, je trouve, d'humilité aussi, de se dire que tout seul, parfois, c'est pas suffisant, que les autres, c'est des opportunités aussi pour rencontrer et de retrouver confiance aussi, je trouve, de retrouver la foi.
Opportunité de se rencontrer, le temps file. Et donc, ce que l'on propose, c'est que vous nous donniez les différentes dates où nous avons l'opportunité donc, de vous rencontrer pour la suite de ces échanges et de ces conférences.
Eh bien, c'est assez rapidement, puisque vendredi soir, à 18h30, on réfléchira à la façon de soigner nos attachements terrestres avec les philosophes Sophie Gosselin et David G. Bartoli, qui seront à la librairie de la Friche Jabel de Mai, à la salle des machines, donc à 18h30. Je crois qu'il va y avoir du monde. Et puis le 4 février, c'est-à-dire samedi, à 11h, à la Fabulerie, une conférence sur un sujet qui n'est pas inscrit dans le programme, qui s'appelle « Penser à partir des paysages sous-marins », qui est une façon aussi de porter attention à ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne connaît pas bien, finalement, ce sont les paysages sous-marins, par Jean-Marc Bess, philosophe, spécialiste et géographe, spécialiste des paysages, là également très attendu. Voilà. Et puis ça continue jusque. Donc vous avez notre programmation sur notre site opera-mundi.org, sur les réseaux sociaux également. On a une très belle programmation jusqu'au mois de mai qui se conclura par une marche avec Elsa Dorlin autour les temps de Berre et également une conférence dégustée avec Emmanuel Perraudin. Donc un mois de mai extrêmement riche également. Enfin, donc en mai, mars, avril, mai. On continue, et avec les philosophes publics aussi, un rendez-vous qui n'est pas inscrit dans le programme, le 18 mars à la Fabulerie, une rencontre avec des soignantes et soignés, rencontre, débat avec ceux justement qui sont dans le soin au quotidien.
Et on finira au mois de juin pour une intervention dans le festival Métamorphose, où on invitera quatre scientifiques qui partiront de la notion de métamorphose, dont Francis Allais, le botaniste, la philosophe Joël Zask et l'ingénieur forestier.
Dans le Luberon à Ariane.
Ernst Zurker et une quatrième personne pour l'instant inconnue.
Eh bien, toutes les informations sont passées, vous pouvez les retrouver sur le site d'Opéra Mundi. Merci beaucoup Cécile et Eric, on est
un
tout petit peu en retard.
Merci beaucoup de votre invitation.
Et à très bientôt sur nos ondes. Bonne soirée.
Et bonsoir.